Il était une fois une bourgade près de la Méditerranée. Le soleil brille et dans une ruelle, on entend des femmes chanter. On sent un léger parfum d'ambre. Le chant et le parfum sortent de la même maison. À l'intérieur, sur des tables, de petites pyramides de poudre rouge, verte, brune, noire. Sur le sol, des jarres, des sacs, des amphores. Autour d'une table, trois femmes, deux jeunes et une plus âgée, chantent en broyant des morceaux d'ambre. Elles terminent leur travail. Une des jeunes femmes va se changer à l'étage, sort de l'atelier, traverse le village en chantant, descend la vallée en courant vers un jeune homme debout près de la rivière et saute dans ses bras.
Alissa, ma belle!
Razi, mon cher Razi.
Alissa, mon cœur est à toi. J'ai quelque chose pour toi. Viens, suis-moi.
Il lui montre la rivière. Elle enlève ses sandales, entre dans l'eau, y plonge la main. Et de dessous les galets, elle retire un cœur forgé en métal de bronze. Les yeux d'Alissa brillent. Elle donne un baiser sur la joue de Razi et le remercie. Ils se promènent main dans la main le long de la rivière jusqu'au soir. Puis ils rentrent à la bourgade. Il y a une fête. Alissa et Razi y chantent et y dansent. Tard, Alissa et Razi quittent la fête. Elle va dormir à l'étage de l'atelier d'herboriste. Lui va dormir dans une maison à côté de la forge où il est apprenti. Les semaines suivantes, Alissa et Razi se retrouvent souvent après leur journée de travail. Un jour, ils sont près de la rivière. Alissa chante et Razi lui montre alors le fond de l'eau. Cette fois, Alissa en retire un cœur forgé en métal d'argent. Ses yeux scintillent. Elle donne un baiser sur la joue de Razi. Ils se disent « Je t'aime ». Quelques jours plus tard, la vieille herboriste envoie Alissa chercher un nouveau pot d'argile dans un atelier de poterie, quelques rues plus loin. Alissa traverse le village en chantonnant et arrive à l'atelier. Elle voit là toutes sortes de bols, de jarres, d'assiettes, de vases. Et au milieu de tous ces objets, un jeune homme est assis à une roue de potier qui tourne. Alissa regarde fascinée les mains façonner l'argile à la fois avec fermeté et douceur. Le jeune homme lève les yeux. Il trouve Alissa très jolie. Il sourit. Elle croise son regard et sourit à son tour. Il arrête la roue.
Le potier, c'est mon père. Il est parti voir un ami dans un autre village pendant quelques jours. Si vous le cherchez, il faut revenir plus tard.
Je ne cherche pas un potier, mais une poterie. J'ai besoin d'un nouveau pot d'herboriste pour y mettre des fleurs de lavande.
Il lui montre des pots. Elle en palpe plusieurs et en prend deux, un dans chaque main. Elle lui montre le pot dans sa main droite.
Celui-ci conviendra, merci.
Vous êtes donc herboriste ?
Oui, enfin non, pas encore, j'apprends.
Comme moi alors, j'apprends la poterie. Dans ma famille, on est potier de père en fils depuis toujours. Mon père dit que ce métier est très noble parce que les dieux ont façonné les humains avec de l'argile comme on façonne nos poteries.
La poterie n'est pas de la sculpture. Seule une poterie a un creux pour accueillir quelque chose d'autre. Comme chaque humain, fait d'argile, reçoit le sang et le souffle de vie que donnent les dieux.
Il lui prend les deux mains, chacune tenant un pot dans la paume. Il la regarde dans les yeux.
Je ne connais pas votre nom, mais je connais la poterie. Et quand je vois vos mains si douces, je vois que les dieux ont mis tout leur talent à faire de vous une beauté sans pareille.
Alissa rougit, lui dit au revoir, et encore sous le charme s'en va avec les deux pots, un dans chaque main. Elle marche en chantant jusqu'à son atelier. La vieille herboriste lui demande « Pourquoi ramènes-tu deux pots au lieu d'un ?» Alissa découvre son oubli. Elle retourne embarrassée à la poterie. Le jeune potier rit, accepte de reprendre le deuxième pot, seulement en échange de son prénom. Lui s'appelle Isias. Les jours suivants, Alissa retourne le voir de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Un jour, dans l'atelier d'herboriste, Alissa et l'autre apprenti découpent ensemble des copeaux de bois d'août en silence.
Alissa, tu ne chantes plus aussi souvent qu'avant? J'ai vu Razi par hasard hier et il m'a demandé si tu allais bien. Que se passe-t-il?
C'est difficile. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, Isias, et je ne sais pas quoi faire. Je crois que Razi sera toujours là pour moi, mais aujourd'hui j'aime tellement chaque instant passé avec Isias.
Toi seule peux sentir avec lesquels des deux tu veux être. Mais à mon avis, le plus important, c'est ce que tu ressens aujourd'hui pour Isias, et pas les promesses, les espoirs, les attentes pour toujours de Razi. Tu le sens, Alissa. Un parfum merveilleux ne sort de ces copeaux de bois que lorsqu'ils sont brûlés, et ce parfum ne dure pas plus que quelques instants. Le vrai parfum de la vie est encore plus délicieux, et lui non plus ne dure pas, car il reste caché sans le feu de la passion, et la passion ne dure pas. La vie est si courte, Alissa. N'attends pas.
Les jours suivants, Alissa chante beaucoup. Elle voit de moins en moins Razi et de plus en plus Isias. Un jour, Razi voit Alissa et Isias se tenir la main et rire ensemble dans une ruelle. Son cœur lui fait mal. Le lendemain, il va à l'atelier d'Alissa et lui demande de le rejoindre le soir près de la rivière. Alissa travaille toute la journée. Le soir, elle sort de l'atelier, traverse le village en silence. Elle ne va pas près de la rivière. Son cœur est trop indécis. Razi, Ilias, Ilias, Razi. Elle marche donc dans l'autre direction, droit devant elle, pendant longtemps, très longtemps. À la nuit tombée, elle arrive dans une plaine bordée d'arbres et s'endort dans l'un d'eux. Depuis le départ d'Alissa, près de son village, dans la rivière, sous les galets, on dit qu'on peut trouver un cœur forgé en or pur. Alissa marche toujours droit devant elle, traversant des plaines, des collines, des vallées. Elle se nourrit de cueillettes, boit aux sources, s'abrite dans les arbres. Souvent, des oiseaux se posent sur les branches autour d'elle et ils chantent. En s'endormant, Alissa rêve qu'elle chante avec eux, que ce ne sont plus des oiseaux, mais des êtres humains.
Thank you.
matin, dans un arbre, Alissa entend une voix l'appeler d'en bas. C'est un vieux berger. Il lui demande « Que fais-tu dans cet arbre ? Es-tu un oiseau devenu femme ?» Alissa éclate de rire. Elle tombe de l'arbre et se fait mal. Elle saigne un peu au bras. Le berger l'aide à se relever. Ils vont chez lui, où sa femme soigne Alissa. Elle reste les jours suivants habitée avec ce vieux couple. En échange, elle aide à traire les chèvres et à les garder. Elle chante parfois pendant le travail. Après quelques semaines, elle garde seule les chèvres dans les montagnes. Le soir, elle les ramène. Elle chante de plus en plus souvent au milieu du troupeau, s'imaginant à sa place des chanteurs et des musiciens. Alors qu'Alissa chante au milieu des chèvres, sur une montagne très boisée, elle voit venir vers elle une femme marchant à côté d'un cheval noir.
« Jeune fille, j'ai entendu ton chant de loin. J'aimerais encore l'entendre. Peux-tu continuer à chanter ? Je suis fatiguée. Je voudrais me reposer en t'écoutant. »
Elles s'asseyent l'une à côté de l'autre. Tandis qu'Alissa chante, la femme murmure quelque chose tout bas. Soudain, Alissa tousse. La femme lui donne de petites tapes dans le dos. Alissa, horrifiée, crache une petite graine. La femme la ramasse, la glisse dans sa poche, décroche une gourde suspendue à son cheval et la donne à boire à Alissa.
Merci. Est-ce de l'eau ?
De l'eau ? Non, un breuvage de chez moi. Je vais maintenant te laisser avec tes chèvres et poursuivre ma route. Je te donne un petit conseil. Ne chante pas tout de suite. Tu dois laisser ta voix se reposer.
La femme monte sur son cheval et part au galop. Alissa, comme conseillée par la cavalière, reste silencieuse avec les chèvres. Le ciel rougit. Il est cependant temps de ramener le troupeau. Alors elle chante pour rassembler les chèvres. Mais au lieu de chanter, Alissa belle comme une chèvre. Les chèvres lui répondent en bêlant. Alissa respire profondément et essaye encore de chanter. Mais bé, à nouveau. Alissa essaye encore et encore, mais elle bêle toujours. Alors, prise de panique, elle crie et hurle. Les chèvres effrayées s'enfuient et s'éparpillent de tous les côtés. Elles entrent dans le bois. Alissa tombe à genoux, pleure en se tenant la tête dans les mains. Elle reste ainsi longtemps, les yeux mouillés et fermés. Quand elle ouvre les yeux, la nuit est tombée. Alissa entre dans le bois pour rassembler les chèvres. Il fait noir, elle n'y voit rien. Elle entend parfois au loin une chèvre d'un côté, puis d'un autre. Elle avance à tâtons, à droite, à gauche. Elle ne s'en sort pas. Elle entend de moins en moins les chèvres. Puis elle n'entend plus rien, sauf le silence de la nuit et quelques bruits bizarres. Alissa, épuisée, grimpe dans un arbre et s'endort au milieu du bois. Pendant son sommeil, elle rêve de la cavalière. La revoit lui tapoter le dos, lui faire cracher une graine qu'elle cache aussitôt dans sa poche, puis s'en aller vers le levant. Lorsque la lumière et la chaleur du soleil touchent son visage, Alissa se réveille et découvre dans le bois, sur le sol, plusieurs chèvres mortes, éventrées, entourées d'empreintes de loups. Au même instant, elle entend au loin les voix du berger et de la bergère. Alors Alissa, paniquée, s'enfuit, loin du bois, et marche vers l'est. Elle arrive dans un petit village. Elle se renseigne. Les gens lui confirment avoir vu passer une cavalière inconnue allant vers le levant. Alissa reprend sa route. Marche encore pendant plusieurs jours, toujours vers l'est. Elle va de village en village, dort dans les arbres, loin des habitations, se nourrit d'aumônes et de cueillettes, se lave dans les rivières et sous les chutes d'eau. Un jour, elle arrive dans une très grande ville. Là, plusieurs personnes ont vu passer la cavalière, mais certains l'ont vue aller vers l'est, d'autres vers l'ouest, d'autres vers le nord et d'autres encore vers le sud. Alissa est fatiguée, déboussolée. Soudain, elle entend un chant. Un groupe de personnes chante avec des musiciens dans la rue.
Thank you.
Les passants applaudissent. Une des chanteuses se lève, salue les autres et s'en va en chantonnant. C'est une femme aux cheveux blancs. Alissa la suit dans la rue et s'approche d'elle, lui touche le bras. La femme se retourne avec un grand sourire.
Oui ? Excusez-moi de vous déranger. N'auriez-vous pas vu une cavalière sur un cheval noir ? Elle m'a volé quelque chose. Je l'ai suivie jusqu'ici, mais j'ai perdu sa trace.
Cette ville est pleine de voleurs, de voleuses, de bandits, de brigands. J'ignore où est celle que tu cherches. Tu n'es donc pas d'ici ?
Non, je viens d'arriver. Je suis épuisée. J'ignore encore où je vais passer la nuit. Auriez-vous un endroit à me conseiller ?
Combien de temps vas-tu rester ici ?
Le temps de retrouver cette cavalière et ce qu'elle m'a volé.
Et si tu ne les retrouves jamais ?
Alors je resterai toujours ici. Je n'ai nulle part où aller.
Bon, si tu peux t'occuper d'une maison, laver le linge et la vaisselle, et si tu peux préparer des repas, alors tu peux habiter chez moi. Je deviens vieille et j'ai besoin d'une jeune personne comme toi à mon service.
Alissa habite dans la maison de Louni. Elle s'y sent bien. Elle fait le ménage, la cuisine, la lessive, parfois en compagnie d'autres jeunes femmes des maisons voisines. Derrière la maison de Louni, il y a un jardin et un verger. Louni apprend à Alissa à désherber, semer, planter, élaguer des arbustes de plus en plus robustes, grands et épineux. Alissa se promène aussi de temps en temps dans les rues de la ville. Et un jour, en plein marché, déambulant dans les allées bondées et bruyantes entre les échoppes, Alissa croise le regard d'un jeune homme inconnu. Il se sourit un instant, mais la foule les sépare aussitôt. Ils se perdent de vue, ils se cherchent mais ne se trouvent plus. La foule est trop forte. Alissa continue son marché. Elle oublie ce regard. Le jeune homme s'appelle Gibran. Il revient au marché le lendemain et tous les autres jours, à la même heure, au même endroit, car il désire revoir Alissa, mais elle n'est jamais là. Alors à chaque fois, il retourne sur les toits de la ville. Il rejoint là-haut sa bande de voleurs. Ils sont une dizaine. Souvent le jour, ils dorment. La nuit, ils volent ou festoient sur les toits à la belle étoile. Ce soir-là, justement, ils fêtent leur dernier vol. Ils festoient avec des bouteilles d'eau de vie, des cruches de vin, des chants, de la musique, des femmes.
Thank you.
Ce soir-là, Gibran boit et s'amuse moins que d'habitude. L'un de ses compagnons s'approche alors de lui.
Gibran, que t'arrive-t-il? Tu es malade?
Je ne sais pas, peut-être. Je pense à une fille, je l'ai croisée il y a plusieurs jours et je ne l'ai plus revue depuis. Je ne sais pas où elle est. C'est la première fois que je suis si triste pour ça.
Et quoi? Tu veux la revoir? Oublie-la, idiot. Pourquoi te rendre si triste pour une fille qui n'est pas là alors qu'il y a tant de filles ici pour te donner du plaisir maintenant?
Je pense à elle tout le temps. Peut-être que je suis amoureux, ou alors j'aimerais l'être pour elle. Je ne l'ai jamais été.
Gibran, pourquoi parles-tu d'amour? Tu es devenu fou, quoi? Nous sommes libres, ne l'oublie jamais.
Qu'est-ce que tu racontes?
L'amour emprisonne. Nous sommes des voleurs et faisons tout pour ne pas être capturés et emprisonnés entre quatre murs. Et toi, tu vas entrer dans la prison de l'amour. Ne vois-tu pas les gens qui se disent amoureux? Ne vois-tu pas que dans un couple, chacun surveille l'autre, comme un maton surveille un prisonnier? Le bonheur et la liberté n'aiment pas l'amour.
Mais pourquoi tout le monde cherche l'amour alors?
Tout le monde? Pas moi. Pas nous. Tu oublies que dans cette ville, la nuit, nous vivons sur les toits. Le jour, nous ne vivons pas comme les autres. Nous sommes libres, pas eux. Ils suivent les lois et les rois. Nous, rien, personne ne nous dit quoi faire. Eux, ils cherchent l'amour, car ils sont habitués à une vie en prison. Mais nous avons choisi la liberté.
D'accord, je ne suis peut-être pas amoureux de cette fille. Je ne veux pas l'être, mais j'aimerais la revoir, la connaître, entendre sa voix, la regarder, lui parler, l'embrasser, lui offrir 1000 cadeaux.
C'est bien. Mais en attendant, tu serais idiot de ne pas jouir de ta liberté. Sinon, tu le regretteras quand tu seras vieux. Et si un jour tu revois cette fille, et si tu veux être heureux, ne deviens le maton et le prisonnier de personne. Garde précieusement ta liberté. Écoute-moi. Si le roi d'un pays annonce dans une loi que le soleil et l'air lui appartiennent, allons-nous cesser de respirer, cesser de sortir dehors pour ne pas lui voler l'air, la chaleur et la lumière et suffoquer jusqu'à en mourir?
Non.
Eh bien, l'amour est aux personnes ce que la propriété est aux choses, une illusion. Les gens croient à ces illusions comme des enfants croient aux contes de fées. Tu as déjà fait une partie du chemin vers la liberté, car tu ne crois plus à la propriété des choses, mais tu es encore prisonnier de l'illusion de l'amour. Si tu préfères t'enfermer dans cette illusion et y enfermer quelqu'un avec toi, tu souffriras comme tous ces gens en bas.
J'aimerais bien de nouveau être libre comme avant, de croiser le regard de cet inconnu.
Commence par t'amuser maintenant avec nous.
Oh,
Pendant le reste de la nuit, Gibran boit beaucoup et fait la fête. Puis il dort toute la journée et rêve d'Alissa. Jour après jour, il retourne encore au marché, toujours au même endroit, mais il ne revoit pas Alissa. Un après-midi au marché, il remarque dans les marchandises d'un brocanteur une peinture magnifique, le portrait d'une jeune femme extraordinairement réaliste. Gibran n'a jamais vu un réalisme pareil. Il imagine alors le même portrait avec le visage d'Alissa. Le portrait est signé Osma. Gibran se renseigne. Osma est un vieux peintre de la ville, réputé comme le meilleur peintre de tout le pays, et d'ailleurs aussi. Aussitôt, Gibran se rend dans l'atelier d'Osma. Des centaines de portraits magnifiques couvrent les murs. Gibran lui raconte sa vie de voleur, sa fascination pour Alissa, son désir de posséder un portrait d'elle.
Je ne peux pas faire le portrait de cette Alissa sans la voir.
Pourtant, je la vois dans mes rêves comme en vrai, si je vous la décrivais.
Ce n'est pas suffisant. Ce serait suffisant peut-être pour un autre peintre, mais pas pour moi. Si mes tableaux sont si vrais, c'est parce que pour peindre le portrait de quelqu'un, je dois passer de longues heures auprès de cette personne, la regarder au moins une nuit pendant son sommeil. Non seulement je regarde son visage endormi, mais je récolte aussi les larmes de ses rêves pour peindre avec elle son regard. Elle me donne la couleur invisible de son âme. Les gens ne le savent pas, mais chaque nuit, pendant que nous rêvons, de petites larmes coulent de nos yeux endormis. Je pique aussi le lobe de son oreille avec une aiguille pour en recueillir de petites gouttes de sang que je mélange avec des pigments pour peindre la couleur de sa peau. C'est la même chose lorsque je dois peindre des fleurs ou des arbres. Je mélange des pigments avec un peu de nectar ou de sève. Pour le ciel et la mer, je mélange les pigments avec des gouttes de pluie, de rosée ou d'eau de mer.
Je n'ai donc aucun moyen d'obtenir un portrait d'Alissa ?
Bon, peut-être pourrais-je peindre son visage à partir de la description que m'en donnerait quelqu'un qui serait amoureux d'elle. Je devrais aussi récolter ses larmes d'amour pour faire apparaître le regard de cette Alissa.
Ses larmes d'amour ?
Oui, les larmes d'amour donnent la couleur de l'âme de l'autre, car aimer, c'est faire de l'autre une partie de sa propre âme. La tristesse, le rire, la joie intense nous font pleurer. L'amour aussi. Des larmes d'amour peuvent jaillir spontanément. On ne le sait pas toujours, car l'amour est si rare. Peut-on être amoureux et ne pas en pleurer ? Mais toi, de ce que tu m'as raconté de cette Alissa, tu n'es pas amoureux d'elle. Ce que tu ressens n'est pas encore de l'amour. Tes larmes ne me serviraient à rien.
Pourquoi ?
Tu ne l'as vue qu'une seconde. Tu dois attendre le jour où tu la reverras. Alors, si grâce à Dieu, ce que tu ressens pour elle aujourd'hui existe toujours malgré ce qu'elle fait, d'y croire, s'il aime follement un autre, alors seulement je dirais que tu es amoureux. Sinon, ça n'aura été qu'un rêve dont tu te rêveras. Tu croyais que c'était de l'amour, mais c'était faux, car l'amour se donne et ne se reprend jamais. Le désir et l'amitié peuvent passer, disparaître, mais pas l'amour, car rien ne le limite.
Mais personne n'est capable d'aimer comme ça. C'est impossible, c'est surhumain.
Oui, c'est peut-être surhumain, mais justement, rien n'est impossible avec la grâce de Dieu. L'amour ne peut être que le don entier de soi à l'autre et l'acceptation entière de l'autre avec son passé, son présent, son futur, son corps, son âme, ses réussites, ses échecs, ses erreurs, ses défauts. Voilà pourquoi on n'est vraiment libre que dans l'amour. La personne qui t'aime vraiment t'accueillera toujours, quoi que tu fasses, pense, dise. L'amour n'a pas de condition, pas de fin.
Moi qui voulais un portrait d'Alissa pour ne plus autant souffrir de ne pas la voir, vous allez me faire attendre jusqu'au jour où je la reverrai. Ce jour-là, je n'aurai plus besoin de son portrait.
Que ça te plaise ou non, tu dois apprendre la patience des graines. L'amour l'exige, car l'amour est vie et toute vie veut d'abord être couvé un certain temps dans l'ombre et le calme pour mûrir patiemment, comme la graine dans le ventre de la terre, comme le bébé dans le ventre de la mère, comme l'œuf sous le ventre de la poule. Un jour viendra où tu verras peut-être Alissa ou pas. Tu dois de toute façon faire mûrir tes sentiments. D'ailleurs, tu as besoin de temps aussi pour trouver de quoi me payer le portrait, car je ne veux pas être payée avec de l'argent volé. J'ai quelque chose à te proposer. Ce que tu ressens pour cette Alissa n'est pas encore de l'amour, mais elle ressemble déjà peut-être un petit peu. Or, le plus important pour peindre, ce ne sont pas les yeux, mais le cœur. Abandonne tes larcins et je t'accueille dans cet atelier pour t'apprendre mon art. Tu pourras alors peut-être un jour faire toi-même le portrait d'Alissa.
Gibran accepte. Il apprend la peinture. Il accompagne et observe Ozma le jour et la nuit. Malheureusement, au bout de quelques mois, Ozma tombe gravement malade et décède, léguant tout son atelier à Gibran. Celui-ci peint un portrait d'Alissa, mais sans verser de larmes. Il affiche ce portrait dans des endroits différents de la ville. Un jour, Alissa voit le portrait. Elle n'est pas sûre que ce soit elle. Elle découvre la signature, Gibran. Elle va le rencontrer dans son atelier. Stupéfaite, elle reconnaît le jeune homme du marché. Leur cœur bat très fort. Il lui raconte l'avoir attendu au marché des centaines de jours et l'avoir cherché partout. Il se revoit le lendemain et les jours suivants. Ils se promènent souvent ensemble, main dans la main. Ce jour-là, dans son atelier de peinture, Gibran prend la main d'Alissa dans la sienne et lui déclare son amour, lui raconte son ancienne vie de voleur. Il demande à Alissa de lui révéler son passé, ses secrets. Alissa lui raconte avoir perdu son chant. Elle bêle pour le lui faire entendre. Gibran lâche la main d'Alissa, écarquille les yeux, recule effrayé et dégoûté.
Mais tu n'es pas humaine. Qu'est-ce que ce bêlement? C'est répugnant. Quelle horreur. Tu es un monstre.
Comment peux-tu dire ça? C'est toi le monstre. Tu me dégoûtes.
Alissa s'en court en pleurant. Va chez Louni. Et tombe dans ses bras.
Ma petite Alissa, que t'arrive-t-il?
Toi, Louni, tu es seule, et tu es heureuse sans homme à tes côtés. Je veux être comme toi.
Oh, Alissa, je vois. Tu sais, que quelqu'un soit près de toi ou que tu sois seule ne doit rien changer pour toi. L'important, c'est l'amour que tu as pour toi-même. Il n'y a rien de plus précieux. Souvent, l'amour que tu cherches à recevoir des autres, tu es la seule à pouvoir le donner. En cherchant l'amour en dehors de toi-même, tu deviens dépendante et jalouse, car ton bonheur dépend de ce que l'autre pense de toi. Tu donnes à l'autre un immense pouvoir de chantage sur toi. Tandis qu'en trouvant l'amour en toi-même, tu es libre. Tout le temps que tu passes à chercher l'amour des autres, à l'attendre, à le demander, c'est du temps perdu. Car tu négliges de consacrer tout ce temps à soigner ton amour propre et ton amour pour les autres. Tu sais, moi, je suis heureuse en m'aimant et en aimant les autres. Je n'attends rien des autres en retour.
Mais comment fais-tu ?
En vérité, ce n'est pas si difficile. L'amour n'est pas d'abord quelque chose que l'on reçoit, mais qu'on donne. Et le véritable amour n'a pas de conditions. Il est présent en nous, inépuisable et débordant. Nous sommes chacune et chacun amour. Observe et tu découvriras que tout est plein d'amour.
Je ne comprends pas. Que veux-tu dire ?
C'est un grand mystère, mais je peux déjà t'en parler. Quand un homme et une femme s'aiment vraiment, ils se donnent entièrement l'un à l'autre. Nous sommes tous des fruits de cette fusion. L'amour est partout. Tu peux le voir dans les alternances du jour et de la nuit, des battements du cœur, de l'inspiration et de l'expiration, du silence et de la parole, du tronc et des tiges, du fleuve et des rivières.
Alissa reste silencieuse et s'endort dans les bras de Louni. De temps en temps, elle bêle dans le jardin, derrière la maison. Devant Louni aussi, de plus en plus souvent. Parfois même dans les ruelles peu fréquentées. Des gens l'entendent, écarquillent les yeux, froncent les sourcils. D'autres éclatent de rire et la surnomment la chèvre. En dépit de cela, peu importe, elle bêle. Si les rues sont bondées ou vides, elle bêle. Même au milieu de la foule au marché. Un jour, Gibran vient chez Louni pour parler à Alissa. Il se tient devant elle, embarrassé, regarde le sol.
Alissa, je t'ai dit que je t'aimais, mais ce n'était pas de l'amour. Je rêvais à l'amour et ton bêlement m'a réveillé, je ne t'aimais pas.
Je le sais. Pourquoi es-tu ici ? Que veux-tu ?
Te demander pardon. J'ai été un imbécile, un idiot, un monstre. Aujourd'hui, je ne sais pas si je t'aime ou pas, mais tu me manques. Je veux te retrouver. Peux-tu me pardonner ?
Moi non plus, je ne t'aimais pas, Gibran. Sinon, je n'aurais pas réagi comme je l'ai fait. Tu me manques aussi, mais je veux être seule maintenant. Si ça change un jour, alors je reviendrai vers toi.
Pendant des mois, Gibran et Alissa ne se voient plus. Un jour, cependant, toujours amoureuse, écoutant son cœur, Alissa va voir Gibran dans son atelier. Elle y retourne de plus en plus souvent. Lui aussi vient la voir chez Louni. Ils se tiennent à nouveau la main. Un jour, Louni s'apprête pour un long voyage, loin de la ville.
Je te laisse la maison pendant mon absence. Avant de partir, je dois te dire quelque chose d'important que tu es désormais prête à entendre. Je sais où se trouve la cavalière que tu cherches depuis si longtemps, et je sais ce qu'elle t'a volé. Je ne pouvais te le dire avant car tu n'étais pas encore prête à l'entendre. Elle et moi, nous étions des amies autrefois. Elle vit avec son frère au nord dans une maison en bois au milieu de la forêt.
Alissa ouvre grand les yeux et les oreilles.
Alissa, tu dois savoir que lorsque cette cavalière vole le champ d'une jeune femme, elle en plante la graine près de leur maison dans la forêt. La graine donne un arbre qui chante lorsque le vent souffle dans son feuillage. Elle a volé les champs d'autres jeunes femmes comme toi, et elle a planté ainsi un verger enchanté dont les fruits étranges ne pourrissent jamais et n'existent nulle part ailleurs.
Mais pourquoi fait-elle ça ?
Elle n'aime pas sa propre voix. Elle est jalouse des autres. Lorsqu'elle mange des fruits de cet arbre enchanté, il lui donne une voix plus belle pour chanter, mais seulement pendant quelques heures. Elle en mange donc tout le temps, espérant qu'un jour sa voix restera définitivement mélodieuse. Mais cela n'arrivera jamais. Elle t'a aussi fait boire la potion qui donne un cri d'animal. Elle l'a fait avec toutes les autres femmes dont elle a volé les chants pour se persuader de la beauté de sa fausse voix. L'unique moyen de récupérer ton chant, c'est de manger un fruit de ton arbre, puis de le déraciner complètement. Alors, tu retrouveras ton chant pour toujours. Toi seul peux maintenant sentir ce que tu dois faire, sachant tout cela.
Louni quitte la ville. Alissa va voir Gibran et lui raconte tout.
Alissa, que vas-tu faire?
Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour trouver une solution. J'ai pu attendre jusqu'à maintenant. Je peux encore attendre.
Alissa retourne à la maison de Louni. Gibran, lui, quitte la ville avec une pelle sur l'épaule et va dans la forêt. Au milieu de la forêt, il voit un cheval noir attaché devant une maison. Gibran se cache dans un arbre et attend. Le vent souffle, les arbres du verger chantent près de la maison. Gibran regarde mais ne voit personne. Il descend de son perchoir avec sa pelle et va d'arbre en arbre. Écoute le chant de chacun. Soudain, il entend un des arbres. On dirait la voix d'Alissa, mais oui, c'est la sienne. Les fruits de cet arbre ressemblent à des fraises jaunes. Il en cueille deux et les met dans sa poche. Il creuse autour de l'arbre quand soudain, une main se pose sur son épaule, Gibran se retourne et reçoit un coup de poing en plein visage et tombe assommé. Quand il se réveille, il est prisonnier dans un puits, à sec heureusement, mais fermé par une grille. Le puits est sûrement loin dans la forêt, car il crie, crie, mais personne ne lui répond. En ville, Alissa sent qu'il se passe quelque chose. Alors elle retourne à l'atelier de Gibran. Comme il n'y est pas, elle se doute qu'il est allé dans la forêt. Elle s'avance vers la maison de la cavalière et frappe à la porte. La cavalière lui ouvre.
« Je te reconnais. Tu es la bergère qui chantait si bien. Que veux-tu ?»«
Je cherche mon ami Gibran. Je sais qu'il est venu ici. »
« Ah, tu viens pour ce jeune homme imprudent qui a osé me voler mes fruits? Tu ne viens donc pas pour chercher le champ que je t'ai dérobé? Ton bêlement te plairait-il ? » ?»«
Je m'aime avec ou sans mon bêlement. Je viens juste pour que tu libères Gibran. Où est-il ? » ?»«
Il sera libre aujourd'hui si tu prends sa place. Je ne te crois pas quand tu dis que tu ne viens pas chercher ton ancien champ. » »«
Libère-le, je ferai ce que tu veux. » »«
Bien, ton ami peut partir, mais toi tu restes ici. » Jusqu'à ce que j'en décide autrement, tu dormiras dans l'écurie avec mon cheval. Tu écouteras les chants des arbres en silence, mais si le vent ne souffle pas, alors toi, tu bêleras bien fort. Je croirai que tu t'aimes avec tant bêlement que si tu ne pleures jamais tout ce temps.
Gibran est libéré par la cavalière. Elle et son frère menacent de le tuer, ainsi qu'Alissa, s'il tente à nouveau de s'approcher du verger. Gibran retourne donc seul en ville. Alissa reste avec la cavalière et son frère. Si le vent souffle, elle écoute le verger enchanté. Parfois, elle bêle parmi les arbres. La cavalière surveille en se cachant derrière les arbres. Chaque jour, Gibran quitte la ville et s'approche de la forêt. Et à l'oreille de celle-ci, il entend parfois le bêlement d'Alissa. Alors il reste là, à l'écouter de loin, en versant des larmes d'amour. Après plusieurs semaines, un jour le vent souffle dans le verger, mais les arbres ne chantent pas. Étonnée, Alissa les regarde. Elle voit alors les animaux de la forêt s'approcher d'elle et l'entourer. Ils attendent silencieux. Parmi eux, une chèvre. Elle bêle et regarde Alissa. Devant ce joyeux rassemblement, les arbres recommencent à chanter. Alissa bêle, les cerfs brament, les loups hurlent, les lapins glapissent, les oiseaux sifflent, les grenouilles coassent. La cavalière, debout derrière un arbre, regarde ce concert, les yeux écarquillés. Alissa l'aperçoit et lui fait signe de s'approcher. La cavalière vient à côté d'Alissa qui lui prend la main, lui sourit et bêle. Tout le monde regarde la cavalière, qui chante alors de sa propre voix. Elle en pleure de joie. Alissa l'accompagne en bêlant, et les arbres et les animaux chantent. La cavalière et Alissa tombent dans les bras l'une de l'autre et pleurent. La cavalière donne à Alissa un fruit de son arbre.
« Mange-le en entier. Tu retrouveras ton champ et perdras ton bêlement définitivement. »«
Si je le mange à moitié ?»«
Tu pourras alors librement choisir de chanter ou de bêler comme ça te plaira. »
Alissa en mange la moitié. Les lapins, les cerfs, les loups creusent autour de l'arbre. Le déracine, celui-ci tombe à terre. Les écureuils le rongent et le réduisent en copeaux. La cavalière, son frère et Alissa récoltent un fruit de chaque arbre restant, les mettent dans deux grands paniers. Ensuite, les animaux déracinent tout le verger. La cavalière et son frère prennent chacun un panier de fruits et quittent la forêt avec Alissa. Chacun part de son côté. La cavalière vers le nord, son frère vers l'ouest, Alissa vers la ville. Alissa et Gibran se sont retrouvés le jour même. Ils se sont mariés peu après et ont eu des enfants. Ils ont vécu heureux ensemble. Jusqu'à la fin de sa vie, Alissa parfois chantait, parfois bêlait, selon son envie. La cavalière et son frère sont allés de village en village, apporter un fruit enchanté à chaque femme dont elle avait auparavant volé le champ. Toutes ces femmes ont retrouvé leur voix. À chaque fois, la cavalière ou son frère leur racontait l'histoire que je viens de vous raconter. Et celles et ceux qui l'ont entendue l'ont ensuite racontée à d'autres, et ainsi de suite. Cette histoire a voyagé. Elle est passée par moi, et maintenant par vous.